Au sein de la Maison-Blanche, nous avions souvent évoqué les défis qui se présenteraient à long terme pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Les pétro-États ne faisaient rien pour diversifier leur économie et nous nous demandions ce qui arriverait lorsque les recettes pétrolières se tariraient. Nous déplorions les restrictions imposées aux femmes et aux filles qui les empêchaient d'étudier, de travailler et parfois même de conduire. Nous avions noté le ralentissement de la croissance et son effet disproportionné sur les jeunes générations dans les pays de langue arabe. 60% de leur population avaient moins de 30 ans et souffraient d'un taux de chômage deux fois plus élevé que dans le reste du monde. Plus que tout, c'était le caractère dictatorial et répressif de presque tous les gouvernements arabes qui nous inquiétait. Pas uniquement l'absence de réelle démocratie, mais le fait que les détenteurs du pouvoir semblaient n'avoir aucun compte à rendre à leurs administrés. Même si les modalités variaient d'un pays à l'autre, la majorité de ces dirigeants se maintenaient au pouvoir grâce à une vieille formule despotique consistant à limiter la participation et l'expression politique, exercer une intimidation et une surveillance constante par l'intermédiaire de la police ou des services de sécurité intérieure, pratiquer une justice dysfonctionnelle sans garantie suffisante des normes d'équité du procès, truquer les élections ou simplement ne pas en organiser, enraciner l'armée à tous les niveaux de la société, censurer la presse et généraliser la corruption. Bon nombre de ces régimes étaient en place depuis des décennies, entretenus par les tentations nationalistes, les croyances religieuses partagées, les structures tribales, les liens familiaux et les réseaux clientélistes. Il n'était pas impossible qu'ils puissent perdurer encore un moment en se contentant d'étouffer les soulèvements et de parier sur la force d'inertie. Mais même si nos services de renseignement visaient surtout les réseaux terroristes, et si nos diplomates n'étaient pas toujours au courant de ce qui se passait dans la rue, nous sentions que la gronde prenait de l'ampleur au sein du peuple arabe, gronde qui, faute d'exutoire autorisé, risquait de dégénérer. Ou, comme je l'ai dit à Denis en rentrant de ma première visite présidentielle dans la région, ça va forcément péter quelque part à un moment ou un autre. Que faire de ce constat? C'était tout le problème. Pendant au moins un demi-siècle, la politique américaine au Moyen-Orient s'était bornée à préserver la stabilité, prévenir les troubles affectant notre approvisionnement en pétrole et empêcher les puissances adverses, d'abord les Soviétiques puis les Iraniens, d'étendre leur influence. Ensuite, à partir du 11 septembre, c'est la lutte contre le terrorisme qui nous a occupés. Dans la poursuite de ces différents objectifs, nous nous sommes alliés avec des dictateurs, car les dictateurs sont prévisibles et aiment la discrétion. Ils accueillaient nos bases militaires et coopéraient avec nous dans la lutte contre le terrorisme. Et bien sûr, ils étaient de bons clients pour les entreprises américaines. Notre dispositif de sécurité dans la région reposait largement sur leur coopération et, dans de nombreux cas, se confondait avec le leur. De temps à autre, un rapport du Pentagone ou de la CIA préconisait que nous soyons plus attentifs aux questions de gouvernance et de droits fondamentaux dans nos relations avec nos partenaires moyen-orientaux. Mais peu après, les Saoudiens nous donnaient une information essentielle permettant d'éviter qu'un avion décolle pour les États-Unis avec à son bord un engin explosif, ou bien notre base navale du Bahreïn se montrait cruciale pour désamorcer un embrasement avec l'Iran dans le détroit d'Ormuz, et ces rapports finissaient invariablement au fond d'un tiroir. Dans toute la haute administration, la possibilité d'un soulèvement populaire qui renverserait un de nos alliés était envisagée avec fatalisme. Certes, cela pouvait se produire, de même qu'un ouragan pouvait s'abattre sur les États du Golfe du Mexique ou qu'un tremblement de terre pouvait frapper la Californie. Mais puisque nous n'avions aucun moyen de deviner où et quand cela arriverait, le mieux était de parer à toutes les éventualités et de nous préparer à faire face au contre-coup. J'aimais croire que mon gouvernement était épargné par ce fatalisme. Dans le sillage de mon discours du Caire, j'avais profité de plusieurs interviews et apparitions publiques pour inciter les régimes du Moyen-Orient à tendre l'oreille à leur peuple qui réclamait des réformes. Lors des rencontres avec les dirigeants arabes, mon équipe veillait souvent à ce que les droits fondamentaux figurent à l'ordre du jour. Le département d'État s'affairait en coulisses pour protéger des journalistes, faire libérer des opposants et élargir l'espace de la participation politique. Il était pourtant rare que les États-Unis reprochent à des alliés tels que l'Égypte ou l'Arabie Saoudite leur violation des droits fondamentaux. Vu les problèmes que nous avions déjà avec l'Irak, Al-Qaïda et l'Iran, sans même parler des besoins sécuritaires d'Israël, les enjeux paraissaient trop importants pour mettre en péril nos relations. Accepter ce type de réalisme politique faisait partie de mon travail. C'est en tout cas ce que je me disais pour me réconforter. Sauf que régulièrement, on déposait sur mon bureau l'histoire d'une militante pour les droits des femmes arrêtée à Riyad, ou bien je lisais dans un article qu'un employé d'une ONG se morfondait dans une cellule du Caire, et alors je ne pensais plus qu'à eux. Je savais que mon gouvernement ne serait jamais capable de transformer le Moyen-Orient en oasis de démocratie, mais j'étais convaincu que nous pouvions et devions faire beaucoup plus pour encourager le changement. C'est dans cet état d'esprit que j'ai enfin réussi à trouver le temps pour déjeuner avec Samantha Power. J'avais rencontré Samantha quand j'étais encore sénateur, après avoir lu son livre « A Problem from Hell, America and the Age of Genocide », pour lequel elle avait reçu le prix Pulitzer et qui proposait une mise en perspective émouvante et impeccablement argumentée du manque de réaction des États-Unis face au génocide et de la nécessité d'un leadership mondial plus fort pour empêcher les crimes de masse. À cette époque, elle enseignait à Harvard, et lorsque je l'avais contactée, elle avait tout de suite suggéré que nous dînions ensemble pour échanger des idées la prochaine fois qu'elle serait de passage à Washington. Samantha s'est révélée bien plus jeune que je ne le pensais. Elle avait à peu près 35 ans, elle était grande et mince, avait des cheveux roux et des taches de rousseur, et de grands yeux presque tristes, aux cils épais, dont les coins se plissaient quand elle riait. Et elle avait aussi un tempérament fougueux. Sa mère et elle avaient quitté l'Irlande pour les États-Unis quand elle avait 9 ans. Elle avait joué dans l'équipe de basket de son lycée, étudié à Yale et était reporter indépendante pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine. Les massacres et les nettoyages ethniques dont elle avait été témoin l'avaient poussée à devenir juriste, dans l'espoir que le droit lui donnerait des outils pour guérir le monde d'une partie de sa folie. Ce soir-là, après qu'elle m'eut énuméré toutes les erreurs de politique étrangère que, selon elle, les États-Unis devaient absolument corriger, je lui avais proposé de descendre de sa tour d'ivoire et de travailler quelque temps avec moi. La conversation débutée au cours de ce dîner s'est poursuivie en pointillé durant plusieurs années. Samantha est devenue mon attachée parlementaire à la politique étrangère, poste auquel elle me conseillait notamment sur le génocide en cours au Darfour. Elle a aussi fait partie de mon staff de campagne, au cours de laquelle elle a rencontré son futur mari, mon ami Cass Sustain, qui deviendrait administrateur de l'OIRA, et elle est devenue l'un de nos meilleurs représentants pour les questions de politique étrangère. J'ai cependant dû la mettre sur la touche et l'écarter de la campagne quand, dans un moment qu'elle pensait être off avec un journaliste, elle avait traité Hillary de monstre. Après l'élection, je l'avais fait entrer au Conseil de sécurité nationale, où elle avait accompli un excellent travail, le plus souvent dans l'ombre, en imaginant par exemple une initiative internationale pour améliorer la transparence et réduire la corruption des gouvernements du monde entier. Samantha était une de mes amies les plus proches à la Maison-Blanche. Comme Ben, elle me rappelait l'idéalisme de ma jeunesse, la partie de moi qui n'avait pas été contaminée par le cynisme, le calcul et une forme de prudence déguisée en sagesse. Et je pense que c'est précisément parce qu'elle connaissait cet aspect de ma personnalité et savait faire vibrer ma corde sensible qu'elle me rendait parfois dingue. Je ne la voyais pas très souvent et c'était un peu le problème. Dès que Samantha obtenait un créneau dans mon emploi du temps, elle se sentait obligée de me rappeler tous les torts que nous n'avions pas réparés. Et de mon côté, je lui demandais « Alors, quels idéaux est-ce qu'on a trahis récemment ?» Elle a ainsi été atterrée que je ne qualifie pas explicitement de génocide le massacre des Arméniens par les Turcs au XXe siècle, la nécessité de nommer les génocides étant un argument central de son livre. J'avais cependant de bonnes raisons de ne pas le faire. Les Turcs étaient très susceptibles à ce sujet et j'étais engagé dans des négociations délicates avec Erdogan sur le retrait des troupes américaines d'Irak. Samantha avait néanmoins réussi à me donner mauvaise conscience. Cela étant, même si son insistance m'exaspérait quelquefois, j'avais besoin à intervalles réguliers de ressentir sa passion et son intégrité, à la fois parce qu'elle servait de boussole à ma conscience et parce qu'elle avait souvent des idées précises et inventives pour régler les problèmes épineux auxquels personne d'autre dans le gouvernement ne prenait le temps de penser suffisamment. Notre déjeuner de mai 2010 en a été la parfaite illustration. Samantha s'était préparée à parler du Moyen-Orient et en particulier du fait que les États-Unis n'aient pas officiellement réagi au récent prolongement pour 2 ans de l'état d'urgence qui durait en Égypte depuis l'élection de Moubarak en 1981. Cette extension entérinait le pouvoir dictatorial du dirigeant en suspendant les droits garantis aux Égyptiens par la Constitution. Je comprends parfaitement les considérations stratégiques qui entrent en jeu dans nos relations avec l'Égypte, a dit Samantha, mais pourquoi est-ce que personne ne se demande si notre stratégie est réellement la bonne ? Je lui ai répondu que c'était précisément la question que je me posais. Je n'étais pas un grand fan de Moubarak, mais j'étais arrivé à la conclusion qu'une déclaration pour condamner une règle en vigueur depuis près de 30 ans n'aurait pratiquement aucun effet. Le gouvernement américain est un paquebot, ai-je dit, pas un hors-bord. Si on veut modifier notre approche dans la région, il va nous falloir une stratégie qui se déploie sur la durée. On va devoir s'assurer que le Pentagone et le renseignement nous suivent et calibrer notre action pour que nos alliés aient le temps de s'adapter. « Et est-ce que quelqu'un s'occupe déjà de réfléchir à cette stratégie ?» a demandé Samantha. J'ai souri. Je voyais les engrenages s'actionner dans sa tête. Peu après, Samantha et trois de ses collègues du Conseil de sécurité nationale, Dennis Ross, Gail Smith et Jeremy Weinstein, m'ont présenté un projet de directive postulant que le soutien inconditionnel que nous apportions à des régimes autoritaires nuisait à notre recherche de stabilité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. En août, je me suis appuyé sur ce document pour demander au Département d'État, au Pentagone, à la CIA et à plusieurs autres agences de réfléchir à des moyens d'encourager les réformes politiques et économiques dans la région et d'inciter ces pays à se rapprocher des principes de la démocratie ouverte afin d'éviter les soulèvements déstabilisateurs, les violences, le désordre et l'incertitude qui accompagnent si souvent les changements brusques. Le Conseil de sécurité nationale s'est lancé dans une série de rendez-vous bimensuels avec des experts de tous les départements pour préciser leur idée de réorientation de la politique américaine. Sans surprise, une grande partie des diplomates et experts chevronnés à qui ils se sont adressés étaient sceptiques quant à la nécessité de remanier notre politique étrangère au motif que, même si certains de nos alliés arabes n'étaient pas très recommandables, le statu quo servait les intérêts américains, ce qui ne serait plus garanti si des gouvernements plus populistes prenaient leur place. Mais avec le temps, le Conseil de sécurité nationale est parvenu à dégager un ensemble de principes directeurs cohérents. Les différentes agences devraient porter un discours constant et coordonné sur l'importance des réformes. Elles formuleraient des préconisations de libéralisation de la vie politique et encourageraient les différents pays à les adopter au moyen de diverses contreparties. Mi-décembre, les documents exposant cette stratégie n'attendaient plus que mon approbation, et même si j'étais conscient que nous n'allions pas transformer le Moyen-Orient du jour au lendemain, je puisais du courage dans le fait que nous commencions à mettre le navire de la politique étrangère américaine sur le bon cap. Il aurait simplement fallu que notre timing soit un petit peu meilleur.